Nous sommes en train de regarder une petite étude sur la foi. Il y a encore quelques messages à faire dans ce sujet-là. Mais même après avoir fait tout ce qui avait été dit, tout ce qui était dit dans la parole de Dieu à propos de la foi, des choses qui pourraient booster notre foi, il en restera encore plein à dire. On peut difficilement passer à travers tout ce qui est écrit dans la Bible ou dans un sujet. Il y a tellement de choses décrites dans la parole de Dieu sur, mettons, la foi. Il faudra regarder l'histoire de la vie de tous les gens du passé. Dans le passé, je parle, ça n'a pas commencé à Jésus, la foi. Avant Jésus, dans l'Ancien Testament, tous les gens qui étaient sauvés dans ce temps-là étaient sauvés par la foi. La foi, ça ne vient pas de commencer il y a 2000 ans. C'est depuis Abraham, puis même avant Abraham, Caïn, Abel, il était là, Enoch, tous les autres qui ont marché, Seth, qui est un descendant. Il y a plein de monde qui invoquait l'Éternel. Ils l'ont pas tout vu, mais ils savaient qu'il était là. Une fois que tu sais qu'il est là, même si tu l'as pas vu, on n'a pas besoin de voir. Nous marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. C'est la foi qui est importante. La foi, c'est une ferme assurance puis une démonstration. C'est une ferme assurance dans ce qu'on espère, qu'on croit, puis une démonstration, ça veut dire qu'il y a de quoi qui est visible. Il y a des pas, des décisions, des choses qui se prennent comme idée. Je m'engage, je veux te suivre. Mais Abraham, quand Dieu lui a dit, laisse ton pays, va dans tes promesses que je t'ai préparées. Abraham, il a démontré qu'il avait la foi. Puis ce qu'il a fait, il est tout laissé là, puis il est parti en direction d'un endroit qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais vu. Il partait, pas sur un nowhere, il partait où ce que Dieu l'a emmené, pour lui montrer un terrain, ce que Dieu t'a pour lui donner à lui et à sa descendance. Fait que la foi, t'as une direction, t'as une marche. Puis c'est ça qu'on est en train de regarder, de marcher par la foi. C'est pas juste avoir la foi, marcher les actes, c'est ça qui est important, faire des pas, prendre des décisions, avancer dans ce que Dieu nous appelle. On regarde dans le sujet d'aujourd'hui, va nous parler un peu du contraire de la foi, l'incrédulité. L'incrédulité, c'est le contraire de la marche par la foi. Ceux qui marchent par la foi ont cette ferme assurance intérieure. Ils prennent des décisions, puis leur vie est basée sur leur foi. Puis la plupart de ceux qui ont la foi, puis qui sont sages, ils vont bâtir sur de quoi de solide, la foi en la vérité, bien entendu, parce qu'il y a différentes choses qu'on peut croire dans ce monde, mais c'est pas toute la vérité. Puis il y en a qui mettent leur foi dans des choses vaines, dans des choses qui vont disparaître. Tandis que nous, on a compris c'est qui est le Dieu véritable, la vie éternelle, étant son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus est Dieu. C'est lui qu'on suit. Puis sa parole, ben Jésus est la parole faite chair, mais sa parole, c'est le livre qu'on tient dans nos mains, la Bible. Puis c'est ce livre-là qu'on veut suivre. Amen. On bâtit notre vie là-dessus. Mais le message, c'est on parle de l'incrédulité qui est le contraire de la foi. Fait que il n'y a pas trois positions devant Dieu. Il y en a des différentes manières. Pourquoi que les gens sont incrédules, on va le voir dans l'étude. Mais il n'y a pas trois positions, quatre ou cinq. Tu marches par la foi dans les vraies choses ou tu es perdu. Tu es dans l'incrédulité, dans l'endurcissement. Tu crois pas dans la bonne affaire ou de la bonne façon, tu es dans l'incrédulité. On va voir dans différents passages qu'il est étonnant de voir comment la nature humaine est lente à croire. C'est rare les personnes qui ont cru instantanément au moment qu'ils ont entendu le mot Jésus, puis tout de suite se sont mis à croire. Ils sont rares. Il n'y a peut-être plus des gens comme ça, mais majoritairement, ça a pris un délai avant qu'on accepte Jésus, qu'on trouve Jésus, puis qu'on l'accepte comme notre sauveur, sincèrement, puis qu'on s'engage à le suivre. Il y a un délai. Moi, ça a pris un an après que je l'ai entendu. Il y en a que ça a pris 20 ans, il y en a que ça a pris 6 mois. C'est pas pareil, chacun a son cheminement. Mais il est étonnant quand même de voir comment ce que notre nature, la nature humaine, est lente à croire. Puis c'est pas étonnant, parce que notre nature humaine, elle conçoit les choses visibles. Elle a de la misère de concevoir des choses dans le monde invisible. Il y a tellement plus de théories sur la raison d'être, pourquoi qu'on est dans ce monde. Il y en a qui croient que c'est une évolution. Fait qu'automatiquement, ils vont laisser Dieu de côté. Ils ne chercheront pas à croire parce qu'ils ont déjà une réponse pour eux qui est satisfaisante. Mais c'est un mensonge. Ils bâtissent leur vie sur une croyance mensongère. Savez-vous pourquoi la Bible nous a été écrite puis qu'on l'a aujourd'hui? Savez-vous pourquoi que la Bible a été écrite puis qu'on l'a aujourd'hui?
Pour qu'on connaisse Dieu.
Pour notre instruction. Puis ça va nous permettre quoi?
Pour mieux le suivre.
Pour mieux le suivre, mais ça nous permet d'être sauvés. Jean 20, le verset 31, nous dit, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez. Voyez-vous? On cherche à bâtir notre foi dans les vraies affaires, mais ces choses de la Bible ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Le but de la Bible, c'est de vous donner des informations pour vous permettre de croire. On cherche des réponses. Où est-ce qu'on va aller les chercher? Dans l'astrologie, dans l'astronomie, dans la science, dans un microscope, dans un télescope. Où est-ce qu'on cherche pour avoir des réponses? On envoie des fusées dans l'espace. C'est dans la parole de Dieu. On commence à lire la révélation de Dieu, puis c'est là qu'on apprend. On reçoit des informations qui nourrissent notre foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, Paul lui dit. Les paroles de foi n'ont pas toutes le même effet dans chaque personne. Il y en a plusieurs qui ont entendu la parole, puis ça n'a pas le même effet. Puis le problème n'est pas que la parole est moins puissante pour un ou plus puissante pour un autre. La parole est la même puissance. C'est une parole puissante qui peut sauver quiconque croit. Le seul élément qui différencie les gens devant Dieu, c'est est-ce que les gens ont une croyance, est-ce que les gens ont la foi ou les gens sont incrédules ou endurcis, que ça rentre pas. Ils veulent pas que ça rentre. Plusieurs raisons, on va regarder tantôt. Dans Actes 28, 24, la même parole qui est annoncée par l'apôtre Paul, il dit « Les uns furent persuadés par ce qu'il disait et les autres ne crurent point. » Il y en a qui ont des oreilles pour entendre ce qui va être dit, puis là, ils vont recevoir ce que tu dis, puis il y en a d'autres, oh, ils vont rire de ça, puis ils vont se moquer. Ils vont rire de la parole de Dieu, ils vont se moquer. Ça, c'est le problème ou les différences qui occasionnent ce problème-là, c'est l'état du cœur, qui est le terrain qui reçoit la semence. Parce que la semence, c'est la parole de Dieu, puis ça dépend du terrain. Si vous êtes là aujourd'hui, puis vous avez cru, assez au point de mettre votre vie dans les mains de Dieu, c'est parce que votre cœur était une bonne terre, prête à recevoir. Vous avez reçu, vous avez laissé Dieu agir, puis il a pénétré votre vie par sa parole, par son esprit, après que vous soyez convertis, puis là, vous marchez avec le Seigneur. Ça, c'est une bénédiction, parce que à cause que vous avez fait ça, puis à cause que vous allez garder ça cette fois-là jusqu'à la fin, vous allez rentrer dans sa vie, dans ses promesses. Ces choses ont été écrites afin qu'on croie en Jésus, puis par notre foi en Jésus, nous ayons la vie en son nom. Ça parle de la vie éternelle. Amen. Lorsqu'une personne ne croit pas, parce que là, les gens ils sont incrédules, ils ne croient pas. Il y en a toujours eu des gens incrédules, depuis le début de la création. Des gens qui ne sont pas ouverts à ce que Dieu a dit. Lorsqu'une personne ne croit pas, elle est appelée par Jésus incrédule. Le mot incrédule s'est formé de deux mots. En réalité, ça veut dire le mot croyant, mais il y a le mot avant, un suffixe qui veut dire non-croyant, qui veut dire incrédule. Il ne croit pas, il n'a pas la foi. C'est ça qu'on veut regarder un peu, qu'est-ce que l'incrédulité, puis jusqu'à où que ça va, l'incrédulité. Le mot grec pour incrédule, dans Louis II, c'est non-croyant, incrédule ou infidèle. Il y a ces trois mots-là ont été employés quand Louis II il écrit ces choses. Infidèle, sans foi, non-crédible sur les choses, incroyant, incrédule ou sans confiance en Dieu. C'est tous des sens pour aider à comprendre le sens du mot incrédule. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas mettre leur confiance en Dieu. Ils veulent continuer à vivre leur vie. Ils font confiance dans leurs propres bras, dans leurs propres ressources. Ils sont satisfaits, sont comblés avec ce qu'ils ont. Ils ne veulent pas s'arrêter à croire qu'il y aura un Dieu puis vouloir commencer à s'accrocher, à lui faire confiance. Il y a plusieurs raisons du pourquoi les gens sont incrédules. Parce qu'on peut se poser la question, comment ça se fait dans une maison, dans une famille, la parole de Dieu pénètre dans la maison, puis il y en a un qui accepte Jésus, deux, des fois trois, puis toutes les autres ne veulent pas croire. Des fois, toute la famille se convertit, il y a d'autres fois, il n'y a même pas un membre de la maison qui veut en entendre parler. Ils ferment la porte, ils nous empêchent de lui parler, ils ne veulent rien savoir, ils ne veulent même pas l'entendre. Il y a plusieurs raisons. On va en voir quelques-unes des raisons. Puis ça, là, c'est le fait qu'on regarde l'incrédulité, ça va nous aider à comparer pour la foi, que c'est 100% le contraire de ces gens-là. Première raison pourquoi que les gens sont incrédules, qui ont décidé de ne pas mettre leur foi en Dieu, tout simplement parce qu'ils ne le savent pas. L'ignorance de Dieu, l'ignorance de sa parole, l'ignorance c'est quoi le chemin, l'ignorance que Jésus est Dieu puis qu'il est venu il y a 2000 ans, l'ignorance de la révélation va faire qu'il y a des gens qui vont demeurer dans l'incrédulité parce qu'ils ne savent pas dans quoi mettre leur foi. Il y en a des gens que, cherchant la vérité, ont fait des quêtes, ils ont descendu au Mexique, au Guatemala, ils sont promenés dans le monde pour essayer de trouver une réponse à la vie, trouver une réponse, une raison, c'est qui, c'est quoi, là tu cherches. Puis là, dans leur cheminement, ils sont mélangés, puis en plus, des fois, ils peuvent même faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Des fois, il y en a que dans leur recherche, ils ont fait des pactes avec les démons pour avoir plus d'argent, de sécurité, de protection, de popularité. Il y a des musiciens dans le monde là, qui font des pactes avec les démons dans leur quête. Mais ils sont ignorants. C'est à cause de l'ignorance. Puis dans Actes 3:17, ça nous dit « Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance. » Les disciples étaient persécutés, mais quand ils lui ont prêché la parole, ils lui ont dit « Je sais que c'est pas à cause de votre ignorance que vous avez agi de même. » Puis dans un autre verset, il nous dit « Dieu lui sent tenir compte des temps d'ignorance, il annonce maintenant le salut par Jésus-Christ. » Il y a eu des temps d'ignorance. Il y a eu des pays qui ont été ignorés, que la parole de Dieu n'est même pas rentrée dans leur pays, ou dans leur tribu, ou dans leur peuple, ou dans leur langue. Il y a encore des langues non atteintes par la parole de Dieu. Il y a encore des gens qui n'ont jamais entendu parler. Ils vont périr incrédules à cause qu'ils sont ignorants. Juste parce qu'ils n'ont pas entendu parler, c'est grave. Ça devrait nous interpeller puis nous dire « Hey, il faut que quelqu'un y aille le dire. Seigneur, c'est envoie des ouvriers dans ta moisson. Il en manque. Ici, au Québec, il en manque des ouvriers. On est la province ou le pays le moins évangélisé par rapport aux pays du tiers-monde et les autres pays. On envoie toujours des missionnaires ailleurs, mais ici, il en manque. Il y a plein de monde de d'autres religions, puis il y en a qui font du porte-à-porte, il y en a qui ont le temple qui pousse un peu partout, mais les églises du Seigneur, ça grossit pas tant que ça. Puis on voit pas que tout le monde est évangélisé systématiquement. Beaucoup de gens sont ignorants, puis il faut aller leur dire. Il faut aller trouver une manière pour les atteindre, puis leur partager la parole. C'est pour ça que ça prend une station de radio chrétienne avec de la publicité, écouter le 1650 AM à Montréal, écouter des messages d'évangélisation. Vous allez pouvoir entendre les paroles par lesquelles vous allez être sauvés.
Amen.
Amen. Gloire à Dieu. C'est une pub. Une pub de notre station. Oui.
Y a-t-il des annonces avec ça?
Il n'y aura pas de commercial. Juste le fait d'entendre, des fois, ça change la vie d'une personne. Au temps de Jésus, là, il y a eu des miracles qui ont été faits. Puis là, dans Matthieu 11, 21, Jésus a dit, « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyre et dans Sidon, il y aura longtemps qu'elle sera repentie en prenant le sac et la cendre. Si les mêmes miracles puis la prédication qui avait été faite là, dans ces villes-là, avait été faite dans Tyre et dans Sidon, ça fait longtemps qu'elle sera toute repentie. Juste parce qu'ils n'ont pas entendu parler, ils sont pas repentis, ces deux villes-là. Tandis qu'eux autres, ils entendaient parler, puis le monde ne se convertissait pas. Puis là, il dit, malheur à vous, puis là, il nomme ces deux villes-là. Puis il a dit aussi dans un autre verset, il parle de Sodome et Gomorre, si les miracles avaient été faits, dans Sodome et Gomorre, on serait repentis. Si les gens de Sodome et Gomorre étaient tels qu'ils étaient, c'est parce qu'ils étaient ignorants de la parole de Dieu. Pourtant, il y avait des gens de foi qui habitaient là. Ils n'avaient pas gros. Il y avait juste là sa femme et ses trois filles qui restaient. Les autres s'étaient mariés avec les femmes du pays. Puis quand que Lot leur a dit qu'un jugement de Dieu qui s'en venait, ils ont pensé que c'était une joke et ils ont ri de lui. Un autre genre de catégorie de personnes qui fait qu'ils sont encore endurcis, c'est ceux qui se sont endurcis eux-mêmes. Dans Actes 28, 30, de 23 à 27, l'apôtre Paul est en train de prêcher, puis il dit, « Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. » Fait qu'il y a beaucoup de gens qui allaient voir Paul dans son logis à Rome. « Paul leur annonçait le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader en ce qui concerne Jésus. » Fait que l'apôtre Paul, c'est un gars équipé qui connaissait la parole de Dieu, connaissait la Bible, puis était capable de prendre des versets de l'Ancien Testament puis de les appliquer pour leur expliquer que Jésus, c'était le Messie. Puis il parlait de façon à les persuader. Ça veut dire, il était convaincant. Quand que Paul expliquait les choses, je pense qu'il avait le tour de parler puis d'expliquer les choses pour pouvoir être convaincant. Là, il dit que l'entretien a duré depuis le matin jusqu'au soir, puis ça dit, « Les uns furent persuadés par ce qu'il disait, et les autres ne crurent point. » Fait que l'apôtre Paul, homme persuadé, convaincant, équipé de versets de la parole de Dieu, leur expliquait pour les amener à croire, puis il y en a là-dedans qui ont cru, puis il y en a d'autres qui ont resté incrédules. Là, on fait face pas à du monde ignorant. On fait face à du monde qui ont entendu. C'est plus pareil une fois que t'as entendu. Jésus, c'est le sauveur. Jésus est mort sur la croix pardonner tes péchés. Quand t'as entendu les choses, faut que tu te repentes. Quand t'as entendu les versets de la Bible, tu fais plus partie des ignorants. Tu fais partie de ceux qui ont entendu, mais qui ont décidé de pas croire. Regardez ce qu'il continue dans le verset 25. Comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. Puis regardez bien ce verset-là que Paul s'est servi pour répondre à ceux qui sont partis sans vouloir croire. Il dit, c'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Isaïe, a dit, « Va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car, et la raison est là, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont entendu, ils ont endurci leur oreille, pardon, ils ont fermé leurs yeux. » Là, c'est l'être humain qui intervient. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux. C'est pas que le Saint-Esprit ne travaillait pas, c'est pas parce que la puissance de la parole est à moins puissante. C'est les gens qui se bloquent, qui se ferment, qui ne veulent pas être convaincus. Ils ne veulent pas. Ils résistent contre l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ça qui est le point. C'est que les gens qui s'endurcissent résistent de l'œuvre du Saint-Esprit. La même chose que nos parents qui ne sont pas sauvés, qui ont tous entendu, du moins dans ma famille, là, tout le monde m'a entendu et réentendu plusieurs fois. Puis, s'ils ne sont pas là aujourd'hui, c'est pas parce que le Saint-Esprit n'a pas travaillé dans leur cœur, c'est pas parce que la parole de Dieu n'est pas puissante. C'est eux qui ferment leurs yeux. Ils résistent contre le Saint-Esprit. Ils décident de dire, inconsciemment, « Saint-Esprit, je veux rien savoir de ça. Non, je veux pas me convertir. Je veux pas le savoir. » Là, il y en a qui en viennent même agressifs quand ils réagissent. Parce que il y a des raisons, on va le voir tantôt. Ils ont fermé, ils ont endurci leur oreille, ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leur oreille, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils se convertissent et que je les guérisse. Ils ont peur de finir par être un converti. Ils ont peur de devenir chrétiens. Ils veulent pas devenir chrétiens parce qu'ils te voient aller, puis ils vont préférer rire de toi qui es chrétien plutôt « jamais je veux devenir un chrétien ». C'est ce qu'ils se disent. Pourtant, le Saint-Esprit travaille. « T'es pécheur, oui, je suis pécheur. Jésus est mort, oui, Jésus est mort. Ben moi, je veux pas m'afficher comme étant chrétien. J'ai peut-être une popularité, je veux pas perdre mes amis, je veux pas perdre... Je veux pas, il y a plusieurs raisons pourquoi qu'ils veulent pas. Mais ils veulent pas s'identifier en chrétien. Ils veulent pas que, finalement, qu'ils se convertiraient parce qu'ils ont déjà une conviction, parce que le Saint-Esprit travaille. Croyez qu'à chaque fois que vous parlez de la parole de Dieu, elle retourne pas à Dieu sans que l'effet ait été fait. La parole de Dieu a pénétré leurs âmes, leur esprit, leurs intérieurs dans leurs os. C'est écrit dans Hébreu. Elle pénètre puis juge les sentiments des cœurs. Chaque fois qu'on mentionne des versets, c'est un coup d'épée qui pénètre, une épée tranchante à deux tranchants. Puis c'est les gens qui ferment leurs yeux, ferment leurs oreilles, puis s'ils seraient capables, ils se mettraient un bouclier, une armure ou une soute antimissile dans le but pour être sûr qu'ils n'entendent rien, prêts à remonter le volume de la musique pour pas qu'ils entendent. Parce que quand qu'à pénètre, ça fait un effet. Il faudrait qu'ils changent de vie, mais ils veulent pas, de peur que Dieu pourra les guérir. Il faut comprendre aussi qu'il y en a de... Puis pas, il y en a. Tous ceux qui refusent, ceux qui l'ont entendu puis qui refusent, ceux qui croient pas, c'est parce qu'ils sont voilés par l'ennemi. Ils savent pas. Nous, on le sait. La Bible le dit. Le monde entier est sous la puissance du malin. Le malin garde captif les gens, puis il agit sur chaque personne qui refuse Jésus. Il agit sur nous autres pour essayer de nous affecter, puis nous attaquer, nous oppresser, nous rendre malades, nous faire mal, de nous faire enfarger dans notre vie. Toutes sortes de troubles, il agit contre nous autres, mais on a décidé de faire confiance à Dieu, on a ouvert notre vie à Dieu, il est dans notre être, puis il marche avec nous, puis même malgré les enfargements de l'ennemi, on marche par la foi, puis on persévère dans nos épreuves.
Amen.
Puis Tandis que les gens du monde se font attaquer par l'ennemi, puis l'ennemi il les tient captifs, puis là, ils sont aveuglés, ils ont de quoi à ses yeux, ils entendent parler de la parole, puis ça dit les oiseaux du ciel enlèvent la semence qui a été mise. Ça dit c'est Satan qui vient qui enlève ça. Comment est-ce qu'il fait? Il a juste à lui changer les idées un peu, puis là, ils sont comme mêlés, puis ça, où ils ont, là, ils comprennent pas parce que ça tourne. Ils comprennent quand tu le dis, mais après ça, il y a de quoi qui tourne dans leur esprit pour changer les idées. Puis en plus, les menteries, les mauvaises compréhensions, comprendre à l'envers, les tentations, toutes sortes d'affaires. Dans 2 Corinthiens 4, les versets 3 et 4, ça nous dit, « Si notre évangile est encore voilé, est voilé dans tous ceux qui ne l'ont pas accepté. Ils l'ont entendu, mais s'il est voilé, s'il y a comme un voile devant les yeux, puis que les gens ne voient pas Jésus, là, puis ils ne comprennent pas que c'est pour eux, puis de haut point. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, on parle d'incrédules, c'est pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. C'est qui le Dieu de ce siècle?
Satan.
Il dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, on n'a pas à lutter contre les gens, mais contre les dominations, les autorités, le prince de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Là, nous, ça nous prend l'armure pour combattre ça, mais quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, puis que le diable a une emprise sur sa vie, si ce gars-là est encore aveuglé, il ne voit pas, c'est parce que c'est le Dieu de ce siècle qui est présent ici encore. Il n'a pas été lié puis enfermé dans l'abîme encore. Il est encore libre d'agir pleinement. Il a tué Jésus. Là, il y a un temps, son jugement est donné, mais ça, c'est comme si il n'est pas rentré en prison encore. Dieu le laisse aller jusqu'au retour de Jésus-Christ. Dieu se sert de cela pour le reste de son histoire jusqu'au temps fixé par Dieu le Père. Quand Jésus va revenir, là, il va se passer des belles affaires, un changement complet. Mais si les gens sont incrédules, c'est parce que le Dieu de ce siècle leur a aveuglé l'intelligence. Ils ne comprennent pas leur vision spirituelle, parce que tout le monde a un esprit. Mais si tu n'es pas converti, il est mort. Il a besoin. Puis il est mort, ça veut dire quoi? C'est qu'il est séparé d'avec Dieu. Un corps sans âme, quand l'âme est sortie du corps, le corps est mort. Mais un être humain, quand il est séparé d'avec Dieu, il est mort spirituellement parlant. Fait que les gens sont morts spirituellement parlant, sont déconnectés avec Dieu, t'arrives pour lui annoncer ce qui pourrait y aider à se reconnecter. Mais il y a un autre esprit qui travaille dans son esprit puis qui le tient aveugle, puis ça c'est le diable. Tu lui donnes les choses, ils vont peut-être même oui. Puis la minute est revirée, le diable lui met d'autres idées, puis là, ils suivent l'idée du diable plutôt de s'engager à suivre Jésus. Il dit, Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne visse pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Il y a d'autres catégories de personnes. Il y a ceux qui sont ignorants. Il y a ceux qui ont entendu, mais qui se sont endurcis, qui sont incrédules par leur endurcissement, par leur aveuglement du diable. Mais il y a ceux qui ont besoin de trop de preuves pour croire. C'est une autre catégorie, ça. On voit ça un peu comme un exemple dans Jean 20, 27, quand on parle de Thomas. Il a entendu parler de la parole, Jésus il a dit, il faut que je meure, puis que le troisième jour je ressuscite. Il a tout entendu, il était avec les 12 Thomas. Puis quand il y a eu des disciples qui ont vu Jésus ressusciter, ils ont dit ça à Thomas, puis Thomas, non, moi là, si je mets pas mes doigts dans son trou, là, dans ses mains, puis dans son trou de côté, il dit, moi je crois pas. Il avait apparu à toute la gang des disciples, les 10 autres disciples, Judas n'était plus là, mais les 10 autres, il a apparu Jésus. Mais ils ont dit à Thomas, puis Thomas n'était pas là, j'en ai dit, ah ben moi je ne crois pas, si je n'ai pas de preuves, plus, faut que je touche. Si on voit ça, puis il dit à Thomas, quand Jésus a apparu à Thomas par la suite, Avance ici ton doigt, puis regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Ça, ça veut dire qu'une personne qui croit en Dieu, cette personne-là croyant en Dieu, elle n'a pas rejeté Dieu, ni rejeté Jésus. Il y a des parties de la Bible qu'elle ne croyait pas. Elle croyait au reste. Elle croyait en Jésus. Il l'a vu Jésus mourir. Mais il ne croyait pas au bout qui disait qu'il fallait qu'il ressuscite. Quand il est ressuscité, ils ne l'ont pas cru. Il n'a pas été seul. Les disciples d'Emmaüs, c'était la même affaire. Ils s'en retournaient vers la ville d'Emmaüs, les deux ou trois disciples. Puis, en s'en retournant, Jésus leur a apparu. Puis là, Jésus leur a dit, « Homme qui est lent à comprendre tout ce que dit les prophètes. » Mais les disciples, ils n'ont pas tout cru instantanément. Là, je parle des disciples, en voulant dire les apôtres, et les disciples qui étaient autour, qui étaient là depuis le début. Il y en a plusieurs qui étaient là depuis le début. Là, Jésus, il dit, « Ne sois pas incrédule. » Crois. Crois ce que j'ai dit. Crois ce que j'ai enseigné. Crois ce que j'ai fait. Puis le reste aussi va s'accomplir. Puis Jésus pourra nous dire la même chose des fois quand on ne croit pas ce qui est écrit. Crois. J'ai tout accompli. Mais il veut. Puis là, j'ai pas mis le verset, mais j'aurais pu le mettre le verset suivant. Heureux celui qui croira sans voir. Pourquoi qu'il dit ça, Jésus, tout de suite après dans l'autre verset? C'est parce qu'il veut donner un message. Ça nous est resté par écrit. C'est pas tout le monde de tous les chrétiens sur la terre qui vont voir des visions, des apparitions de Jésus. Je dirais qu'il n'y a même pas 1% ou 1 sur 1000 chrétiens qui a des visions et des apparitions de Jésus. Puis Jésus veut qu'on croit, qu'on marche par la foi et non par la vue. Heureux celui qui croira sans voir. Si on s'attend absolument, Seigneur, moi je suis bien prêt à croire en toi, mais faut que tu m'apparaisses. C'est comme Thomas, faut que je mette mon doigt. Ceux qui veulent bien beaucoup de preuves vivront pas grand-chose. Thomas, il était un spécial, là, ça nous a été donné comme exemple. Lui, c'était un des apôtres choisis par Jésus. Lui, il savait pas qu'il était appelé par Dieu pour faire cette mission-là. Il savait, il l'a vu, mais il l'a compris plus peut-être par la suite, comme les autres apôtres aussi, ils se sont affermis plus après la résurrection du Seigneur. Ils ont reçu le Saint-Esprit, puis là, ils ont joué, ils ont accompli leur rôle de chrétien sur la terre, d'apôtre du Seigneur. Mais Dieu voit sur la terre plein de gens que ça lui prend des preuves. Au moins, ça me prend une preuve scientifique, une preuve archéologique, une preuve, ça prend des preuves. Mais c'est écrit, ah ben moi, le gars lui veut la preuve. Heureux celui qui croira sans voir. La foi, c'est une marche vers l'invisible. Tu ne vois pas Dieu. Tu sais qu'il est là, tu sais qu'il a parlé, tu sais que sa parole, tu l'as dans les mains. Tu as donné ta vie au Seigneur, tu as déjà commencé à vivre plein d'affaires qui te montrent que ta vie a changé, il se passe quelque chose. Dieu est là, Dieu m'aime, puis tu as une joie dans toi que tu n'avais pas avant, tu as une paix que tu n'avais pas avant. Tu vis des affaires qui confirment que c'est vrai. Là, Dieu dit, crois, crois, tout le reste est vrai, puis tout va s'accomplir. Persévère dans la foi. Amen.
Amen.
Il y en a d'autres catégories de personnes, de gens incrédules. C'est ceux qui croient. Ils croient. Ils croient en Dieu, ils croient en parole, mais ils n'ont pas assez pour passer aux actes. Ils veulent rester seulement dans la dimension j'y crée. J'y crée. J'y crois. J'y crois. Mais juste croire, c'est pour ça que Jacques a écrit dans au chapitre 2, le verset 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. » Mais les démons aussi y croient et ils tremblent. Ça veut dire qu'il y a une catégorie de gens, ils croient. Ils croient. Va pas leur dire que Dieu n'existe pas. « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Dieu existe, ils le savent. » Ils croient, mais pas assez pour s'engager à suivre, à obéir, à marcher avec le Seigneur, à renoncer à des choses. Puis là, c'est encore de l'incrédulité. Même si tu crois, mais tu t'engages pas, tu fais pas de pas. Paul, il disait, je prêchais la repentance envers Dieu. La repentance, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils veulent se détourner. Il lui dit, repentez-vous. Fait que les gens, fallait qu'ils changent de vie. Qu'ils deviennent chrétiens. Il dit, il prêchait la repentance, ça veut dire de se tourner vers Dieu puis changer de vie, et la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Ça veut dire, il fallait que les gens démontrent dans leur vie que vraiment, ils étaient repentants. La vie d'un chrétien, c'est quelqu'un qui veut changer de vie. Il est là pour, dorénavant, pour suivre le Seigneur, pour marcher avec le Seigneur. Les premiers pas qu'ils vont faire, ils vont se faire baptiser. D'autres pas, ils vont aller à l'église. D'autres pas, ils vont évangéliser. Ils vont prendre position pour Jésus. D'autres pas, ils vont sanctifier. Ils vont vouloir fuir le péché. Ils vont vouloir marcher en contact avec le Saint-Esprit. Ils vont être dans prière et dans louange. Il y a toutes sortes de pas qui démontrent leur foi. C'est comme ça que qui est la vie d'un chrétien. Puis qu'on est tous appelés à rentrer. Mais il y a des gens qui croient 100%. Mais il dit, non, moi, je m'appuie les pieds dans l'église, j'ai vu quelqu'un dire quelque chose ou faire quelque chose, et pour moi, j'ai tout mis ça sur la blacklist, je veux plus rien savoir. Je crois, mais je veux pas changer de vie. Jésus a toujours été étonné de l'incrédulité des gens. Il dit ça dans Marc 6:6. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villes et les villages dans l'entour, puis enseignait, puis il se passait toutes sortes de miracles, toutes sortes de signes de prodiges. Puis les gens, Jésus, il était étonné que les gens soient si incrédules. Il y avait tout pour croire, puis il ne croyait pas. Puis à cause de cela, mais Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles dans les milieux des incrédules. Pas parce que Jésus n'était pas capable d'en faire. Si on voit ça dans Matthieu 13, 18. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Pas parce qu'il n'aurait pas été capable d'en faire. C'est que ça ne donnait rien. Les gens avaient le cœur dur, le cœur endurci, puis ils fermaient les yeux, puis ils ne voulaient rien entendre de ce que Jésus avait à dire, sans compter en plus que des fois, les gens voulaient cracher quasiment sur Jésus, puis le mettre à mort, ou lui faire du mal pour qu'il se tait, le mettre en prison, ou vouloir faire du mal aux disciples, c'était la même affaire. Tout le long, les gens qui n'étaient pas d'accord, non seulement qui n'étaient pas d'accord, mais il y en a qui manifestaient le désaccord en forçant les chrétiens d'arrêter de parler. Paul, lui aussi, il a fait face à des incrédules, je l'ai vu, j'en ai parlé tantôt, mais j'en reparle dans Actes 19, les versets 8 et 9, où ce que Paul y entra dans la synagogue, puis parla librement pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, il s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Fait que Paul, il parlait, il essayait de convaincre le monde, écoutez ce que je vous dis, c'est écrit ça, puis il essayait de les persuader. Mais quelques-uns restaient endurcis et incrédules. Il y a des gens incrédules, des gens endurcis, qui ne veulent pas l'entendre. Puis là, il dit criant devant la multitude la voix du Seigneur. Fait qu'il y en a qui parlaient contre l'Église du Seigneur, parlaient contre les chrétiens, parlaient contre la parole de Dieu. Fait que Paul s'est retiré d'eux, il a séparé les disciples. Puis là, il enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Il a lâché d'aller dans la synagogue parce qu'il y avait le monde ne voulait pas rien entendre. Il était pendant 3 mois, puis le monde n'écoutait pas. Il a décidé de louer un local dans une école, puis de commencer à prêcher et enseigner là. Il a emmené les disciples à faire une réunion à part que la synagogue. Il faut comprendre que la synagogue, c'était une synagogue du peuple juif, des enseignements de la loi de Moïse, selon l'ancienne alliance. Il laissait parler le monde. Paul en a profité pour aller parler de Jésus dans la synagogue qui était faite pour les Juifs, pour leur enseignement juif. Mais lui, il allait prêcher Jésus dans cette place-là. Puis là, le monde continuait à être endurci. Au bout de 3 mois, il a été loin local. C'est pas étonnant qu'il y a du monde incrédule partout ce qu'on passe. Mais Paul ne se lassa pas de continuer à prêcher puis d'essayer de convaincre les gens. C'est notre tâche, c'est notre rôle, de continuer à y aller puis semer la parole dans leur cœur. Il y en a qui sont ouverts, là, tu peux en parler. Il y en a d'autres, c'est juste un petit grain à chaque fois. Un verset, une petite parole. Mais l'important, c'est de profiter des occasions. Les gens ne sont pas tous là pour se convertir. Il faut comprendre ça d'avance. On ne verra jamais tout un pays entier se convertir vraiment pour le salut comme que... Il s'est arrivé que du monde se sont repentis, mais ça ne veut pas dire que tout le monde va se mettre à suivre. Tu peux dire aujourd'hui que tout le monde dirait « Ah oui, on regrette d'être pécheur », ça ne veut pas dire que le lendemain, on ne recommencera pas. Les gens veulent des miracles, mais ils veulent garder leur liberté. Ça, on n'a pas le choix de vivre avec ça. La preuve, on continue nous-mêmes à garder nos libertés. Dieu nous a créés libres. Il n'y a personne, même quand tu es chrétien, il ne t'a pas forcé un bras d'accepter. Hein, est-ce quelqu'un qui s'est fait casser un bras par le Seigneur pour l'accepter? Non. Puis aujourd'hui, tant d'années après qu'on l'a accepté, est-ce que le Seigneur vous tord encore un bras pour obéir, pour marcher avec lui? Pas du tout. Il nous a laissés libres. Mais les gens dehors, c'est la même chose, sont libres. Il les appelle, il les a appelés. À chaque fois qu'on parle du Seigneur, ils continuent de travailler leur cœur. Mais les gens sont libres. Mais les gens veulent des guérisons. Il y a beaucoup de gens qui veulent des guérisons, mais mande-moi pas de te suivre. Puis quand les gens croient pour les guérisons, mais qu'ils veulent pas suivre Jésus pour obéir, Jésus les appelle quand même des incrédules. Même si les gens croient en Dieu, même si les gens croient en la guérison de Dieu, ils croient que les chrétiens, quand ils sont en train de prier, ils sont exaucés, ils vont vous demander de prier pour eux. Puis même s'ils s'attendent à voir des miracles de la part de Dieu, s'ils ne se sont pas convertis quand ils l'ont reçu, ils sont encore appelés par Dieu des incrédules. On voit ça dans la parole, dans Luc 9, 41. On arrive, Jésus descend de la montagne, ils viennent d'avoir la transfiguration, il est avec Pierre, Jean-Jacques sur la montagne, descend de la montagne, les autres disciples étaient là, il y avait une foule qui était là, puis il y avait un enfant qui était démoniaque, un enfant qui était saisi par un esprit mauvais. Puis là, les gens s'attendaient à ce que les disciples délivre le jeune enfant, mais ils n'ont pas été capables. Puis là, Jésus descend de la montagne, puis là, le père de l'enfant suppliait Jésus de le guérir. Puis Jésus lui a répondu à ce gars-là, Luc 9, 41, « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. » Il est en train de parler au père, là. Il est en train de dire au père, qui est un gars non converti, il voulait une guérison, il voulait une délivrance de son enfant, mais lui, il n'était pas prêt à suivre Jésus. Jésus voyait son cœur, puis il a répondu à cet homme-là, « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous et je vous supporterai? Amène ici ton fils. » Il n'était pas en train de parler à ses disciples, il était en train de parler à ce monsieur-là, qui voulait une guérison, mais ne voulait pas suivre Jésus. Jésus les appelle incrédules. Même les apôtres, entre guillemets, ils ont eu leur moment de doute et d'incrédulité. Ils n'ont pas été dans la foi à 100% depuis le début qu'ils ont été appelés, puis jusqu'à la fin de leur vie. Dans leur vie, ils ont eu des moments d'incrédulité. Puis ils ont été reprochés par le Seigneur. Le moment d'incrédulité. à plusieurs moments, mais un des versets, entre autres, dans Marc 16, 14, après sa résurrection, il a parlé à ses disciples, il est apparu, puis il est apparu, puis ça dit, « Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. » Fait qu'il était à table, Jésus était à table avec, pas Jésus, les 11 apôtres étaient à table, puis là, Jésus les a apparus pendant qu'ils étaient à table, suite après sa résurrection. Il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Il leur reprocha leur incrédulité aux disciples. On est après la résurrection, les disciples n'avaient pas cru. Ils n'avaient pas attendu. Même quand Marie elle a vu le Seigneur au tombeau, j'ai parlé au Seigneur, il est revenu le dire à ses disciples. Ils ont dit, non, on ne te connaît pas, puis il n'était pas dans la foi puis dans l'attente que Jésus t'a pour ressusciter. Fait que Jésus les a reprochés. Puis même un disciple, même un apôtre peut se faire appeler incrédule. C'est ça qui est le point. On peut dire qu'on a la foi, mais on a des moments de non-foi. Si on est capable de l'admettre, il faut l'admettre qu'on a des moments de non-foi. L'incrédulité, c'est non-foi. Parce qu'il y a un remède pour ça. Dieu, s'il nous enseigne ça dans sa parole, c'est parce qu'il veut qu'on soit guéri ou qu'on aille chercher de l'aide. Parce que c'est une faiblesse dans notre être si on a de la non-foi, d'incrédulité. Il y a un seul remède pour s'en sortir de l'incrédulité. On le voit dans un exemple dans Marc 9, à partir du verset 22. Il y a un seul remède si tu veux être délivré de l'incrédulité. Parce que, en tant que chrétien, si les apôtres se sont fait appeler incrédules, c'était tous des gens qui croyaient en Jésus au bout, là, puis qui ont écouté Jésus, puis tu le quittes, puis tu peux être encore appelé incrédule. Le seul remède pour être secouru par Dieu dans nos doutes et nos faibles fois, c'est la confession de notre faible foi. Faut le dire à Dieu qu'on a de la misère. Faut le dire à Dieu qu'on est faible dans la foi et qu'on doute pour que Dieu nous aide. Les doutes, on peut les chasser, mais ils peuvent revenir. Faut demander de l'aide à Dieu. Il y a un homme qui s'est présenté à Jésus dans Marc 9, il va partir du verset 22 jusqu'à 24. Là, il parle justement, il dit que souvent l'Esprit saisit son fils, puis il jette dans le feu, il jette dans l'eau, puis là, l'Esprit sortait de l'enfant après l'avoir tout brisé. C'était terrible comment cet enfant-là souffrait. Mais là, ce père-là qui voit son enfant de même, il demande à Jésus de le délivrer. Mais si tu peux quelque chose, il demande à Jésus, si tu peux quelque chose, si tu peux faire quelque chose pour ça, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux. Jésus n'était pas pressé de délivrer l'enfant, il était plus pressé de la mentalité de ce gars-là qui se présente à Jésus. Il dit, si tu peux, laisse faire si tu peux. Jésus a répondu, tout est possible à celui qui croit. Laissons faire si tu peux. Pensons pas si tu peux, t'es déjà dans le doute quand tu penses si tu peux. Jésus il dit, si je peux ou si tu peux, laisse faire, en voulant dire, laisse faire si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Y en a-tu qui pensent si Dieu peut? Faut pas. Il le peut. C'est pas si il peut. Tout est possible. C'est Jésus qui dit ça. Tout est possible à celui qui croit.
Amen.
Tu vas à Jésus pour avoir de quoi? Jésus, lui, c'est tout est possible. Tu sais, amen à tout est possible à celui qui croit. C'est Jésus qui a dit ça, là. Il faut se le graver quelque part. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est l'apôtre Paul qui a dit ça. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. C'est des belles phrases, ça. Il faut les apprendre par cœur. Qu'est-ce que le gars a répondu quand il a entendu Jésus lui dire ça? Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » Il croyait, il y avait une petite foi que Jésus peut-être qui pourra, mais Seigneur, j'ai un gros doute. Puis Jésus vient de lui dire, « Parle-moi pas de même, c'est tout est possible. » Ah ben, d'abord, viens à mon secours dans mon incrédulité. C'est là le secret, le remède. Faut demander à Dieu de nous booster notre foi pour enlever tout ça, ces doutes-là. Et que quand même, malgré notre faiblesse dans la foi, parce qu'on est faible dans la foi parfois, il faut le confesser. Là, si on ne l'avoue pas, on va marcher dans la faiblesse de notre foi tout le temps. Si on veut que notre foi grandisse, il faut crier à Dieu, « Seigneur, viens au secours de ma foi, booste ma foi, remplis-moi de foi. » Puis là, après ça, tu vas être capable, « Seigneur, fais ça, puis paf, ça va se faire. » Amen. Le Seigneur va nous accompagner. N'oubliez pas, le dernier verset, n'oubliez pas que Dieu nous a donné ses paroles dans la Bible, dans le but que vous croyez et que vous soyez sauvés. C'est le verset que j'ai lu au début. La Bible nous a été donnée afin qu'on croit et qu'on soit sauvés. Dans Jean 20, 31, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez. Ce que Dieu veut faire ce matin, c'est booster notre foi. Il veut qu'on mette notre foi en lui. On abandonne tout doute, incrédulité. Seigneur, booste notre foi. Ces choses-là ont été écrites afin qu'on croit puis qu'on soit sauvé. Tiens, amen.
Amen.
Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui vient changer nos cœurs et nos vies, qui vient booster notre foi puis qui nous fait voir le mauvais côté de la marche par la foi, l'incrédulité. Ça peut atteindre beaucoup de gens, et nous-mêmes, on a été atteints à plusieurs reprises avec des doutes et de l'incrédulité. On te demande pardon, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de venir à notre secours. Viens changer notre être, notre perception, nos attitudes, tous nos doutes, notre incrédulité, puis booste notre foi. Viens au secours de notre incrédulité. Viens nous remplir de cette foi qui vient de ton Saint-Esprit. Puis qu'on puisse marcher par la foi dans ce monde, en croyant en toi, en ta parole, puis sachant qu'un jour, on va être avec toi pour l'éternité. On te rend grâce pour tout dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.